RFI, grand reportage.
Vous l'avez vécu en direct sur RFI le 16 novembre dernier. La NASA lançait sa première mission du programme Artemis, programme qui doit reconduire l'agence spatiale américaine et ses partenaires vers la Lune. 50 ans après la dernière mission Apollo, l'enjeu est de taille. Il s'agit cette fois d'installer une présence humaine pérenne sur notre satellite. Un programme hors norme qui s'étalera sur des années, dont nous vous proposons de revivre la première étape. Artemis sur la Lune pour y rester. C'est un grand reportage de Simon Rosé.
The Moon, a lonely world in the absence of man.
La Lune, en l'absence de l'homme, un monde solitaire. Mais nous avons laissé ici notre empreinte, notre signature, un legs aux générations futures. Nous nous sommes tenus sur les épaules des géants et nous avons atteint la Lune.
And touched the moon.
1972, la NASA célèbre Apollo 17 et Gene Cernan, The Last Man on the Moon, le dernier homme sur la Lune. La fin d'un programme, la fin d'une époque qu'on a bien cru ne plus revoir. Pourtant, 50 ans plus tard, les yeux se lèvent à nouveau vers notre satellite. Adieu Apollon, place à sa sœur jumelle, bonjour Artemis.
Le décret que je signe aujourd'hui va recentrer le programme spatial américain sur l'exploration humaine. Il marque une étape importante pour le retour d'astronautes américains sur la Lune, pour la première fois depuis 1972. Ce sera cette fois une exploration à long terme. Nous n'y laisserons pas seulement un drapeau et nos empreintes, nous établirons les fondations pour une future mission vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes lointains.
En 1962, Apollo avait eu le discours de Kennedy, resté dans l'histoire. Prononcé en 2018, celui de Donald Trump n'aura peut-être pas la même portée, mais ses conséquences sont au moins aussi importantes. C'est le coup d'envoi du programme Artemis. Cette fois, on va sur la Lune, mais pour y rester.
Les équipes, nos prédécesseurs qui ont construit la fusée Saturn V, ils avaient compris beaucoup de choses.
Chris Scienciola n'a pas la mission la plus facile dans le programme Artemis. Il fait partie de l'équipe de la NASA en charge de développer la nouvelle fusée lunaire de l'agence, successeur de la Saturn V d'Apollo, c'est le SLS.
We went to the moon.
Nous sommes allés sur la Lune, mais nous n'y sommes restés que quelques jours. Là, on veut une exploration dans la durée. Nous sommes des pionniers au sens littéral, on y va pour rester. On peut faire la comparaison avec les premiers vols habités dans l'espace, Mercury et Gemini, des missions courtes autour de la Terre. Ça nous a permis de nous entraîner et de tout tester avant le premier alunissage. Mais nous en sommes désormais au point où ça fait plus de 20 ans qu'on vit en orbite à bord de la station spatiale. Donc, on a appris à vivre et à travailler dans l'espace. On va prendre toutes ces connaissances et les emporter sur la Lune. Et on utilisera ensuite la Lune comme entraînement pour Mars. C'est la Lune, puis Mars. La Lune n'est pas le but final. L'objectif, c'est d'explorer la Lune et Mars. Mais après ça, on ira encore plus loin.
Et pour y parvenir, il faut donc une fusée, et pas n'importe laquelle, rien de moins que l'engin le plus puissant jamais lancé.
Le SLS, le système de lancement spatial, c'est la fusée, le système de propulsion du programme Artemis. On va à un endroit bien plus loin, 1000 fois plus loin que l'orbite basse de la Terre. Il y a aussi la masse qu'on apporte là-haut. Quand on va si loin, il faut tout amener avec vous, tous les systèmes nécessaires au vaisseau et tout ce dont l'équipage aura besoin.
Développer une fusée, c'est compliqué. Et en faire une qui doit amener un équipage sur la Lune, ça l'est beaucoup plus. Nous pourrions passer les 20 minutes qui suivent à vous raconter comment ça fonctionne. C'est très intéressant, mais ça ne plairait sans doute pas à tout le monde. On résume donc, SLS, c'est des années de retard pour obtenir un engin de 98 mètres de haut, 2660 tonnes, dont 1000 de carburant. Un étage principal supporté par des boosters, des propulseurs d'appoint, en bon français. Le tout capable d'envoyer, dans sa configuration actuelle, 27 tonnes en orbite lunaire. Nous allons quand même nous attarder sur ces moteurs. On dit souvent dans le spatial que sans moteur, une fusée n'est qu'un grand tas de tôles. D'autant plus que ceux-ci ont une histoire particulière. Voici les RS-25.
Le RS-25 est un moteur fusée. Il utilise de l'hydrogène et de l'oxygène. Il les mélange dans sa chambre de combustion pour propulser la fusée.
Doug Bradley commence à avoir un certain âge, mais il sourit comme un enfant. On peut le comprendre, c'est lui le responsable de ces moteurs chez Aerojet Rocketdyne, l'industriel qui en a la charge. Et si le RS-25 est si mythique dans le secteur, c'est qu'on le connaît bien.
Au début, on définit ce qui est nécessaire pour la mission. Ça nous donne le type de moteur dont on a besoin. Ensuite, la chose la plus logique à faire, c'est de regarder s'il y en a un qui existe déjà. Comme ça, on n'a pas besoin d'en développer un nouveau. Ça coûte très cher. Et il se trouve que le RS-25 était parfait pour cette mission. Il vient de la navette spatiale. Dans ce programme, ils étaient réutilisables. Depuis son arrêt, il nous en restait 16. C'est ceux qu'on utilise maintenant. On a dû les adapter un peu. La séquence d'allumage est un peu différente, mais en fait, le seul changement majeur concerne les ordinateurs de bord. C'était de la vieille technologie des années 90 et ils ne pouvaient pas communiquer avec la fusée. On en a donc développé de nouveaux, mais c'est le seul changement. Du coup, tous ces moteurs ont déjà volé. On leur donne des numéros. Le 2045, par exemple, c'est le plus ancien. Il a volé 12 fois. Sur cette fusée, on a aussi les 2056, 2058 et 2060. Celui-là a volé 3 fois, je crois. Ils sont tous expérimentés et on aime ça. On a leurs caractéristiques, on sait comment ils se comportent, on sait ce qu'on doit regarder. Parce que nous avons caractérisé les engines, nous
savons comment ils réagissent, nous savons ce qu'on doit regarder. Mais à quoi bon ce déluge de puissance? Tout ça, car perché au sommet du SLS, on trouve Orion. C'est la capsule à bord de laquelle embarqueront les astronautes lors des prochaines missions vers la Lune. Et puisque cette fois la NASA ne veut pas y aller seule, elle a fait appel à l'Europe pour lui fournir un élément essentiel, le module de service. Philippe Deloux nous le présente, c'est le responsable du projet à l'Agence spatiale européenne.
Le module de service, eh ben, c'est tout simplement c'est le moteur de vos voitures. Si on compare, Orion, c'est une voiture. Et ce que fournit l'Europe, c'est toute la mécanique, la propulsion de la voiture et tous les systèmes de régulation qui permettent à la capsule de voyager dans l'espace et de fournir une atmosphère convenable aux astronautes. Pour nous, c'est la mission de démonstration pour s'assurer que tous les systèmes que l'on a développés fonctionnent comme on le pense, qu'il n'y ait pas d'anomalie, qu'il n'y ait pas de surprise. Et pourquoi a-t-on besoin de s'assurer de ça? C'est parce que le prochain vol sera avec des astronautes et on ne peut pas risquer la vie des astronautes en les envoyant avec un système qui n'a pas été vérifié.
La Floride, ses plages, son soleil et son centre spatial, le Kennedy Space Center, Cap Canaveral. Sur le pas de tir 39B, après plusieurs reports, SLS déploie sa centaine de mètres de haut. Nous sommes le 16 novembre 2022. La zone alentour est interdite d'accès. Nous nous trouvons à 5 km environ. Et même à cette distance, ça impressionne, y compris ceux dont le métier est de grimper tout en haut en attendant qu'on allume l'engin.
Très honnêtement, même nous, on ne se rend pas bien compte en fait de ce que c'est.
L'astronaute français Thomas Pesquet a été invité par la NASA à assister au lancement. Même s'il n'embarquera pas à bord des premières missions habitées, il est tout à fait probable qu'il monte à bord dans quelques années.
Évidemment, c'est un peu l'attitude générale. On se dit, bah oui, bien sûr, j'ai envie d'essayer, etc. Mais on est comme tout le monde, on le voit d'assez loin en fait, tant qu'on n'est pas désigné sur une mission. Après, une fois qu'on s'approche un peu de ce monstre-là, une fois qu'on voit à quoi ça ressemble, une fois qu'on voit la différence d'échelle, on se rend compte en fait des dimensions au fur et à mesure qu'on s'approche. Puis après, une fois qu'on est dessus, c'est trop tard pour faire demi-tour. mais non, je pense qu'il y a un vrai effet d'échelle. Pour l'instant, on a tous volé depuis les 10 dernières années sur à peu près les mêmes choses. Falcon, Soyuz, tout ça, ça se ressent. Même le Starliner, tout ça, c'est à peu près les mêmes véhicules. Là, c'est quand même une autre paire de manches. Hein. On passe du Cessna ou de l'avion moyen au 747. Hein.
À l'approche du lancement, la NASA a déclenché le compte à rebours. Allumage des moteurs prévu à 1h04 du matin, heure locale. Tout se passe comme prévu, les réservoirs se remplissent, c'est l'étape la plus critique. Mais malheureusement, Daryl Nail, un employé de la NASA qui travaille au centre de contrôle, prend la parole. A leak was
Une fuite a été détectée par l'équipe de lancement sur une valve qui remplit l'étage principal d'hydrogène liquide. Malheureusement, l'équipe ici n'est pas parvenue à réparer cette fuite à distance.
Au centre spatial Kennedy, l'inquiétude monte. C'est exactement le même problème qui avait causé les précédents reports. En salle de contrôle, on discute sur les options.
Il nous apparaît nécessaire d'envoyer une équipe, le Red Crew, vers le pas de tir pour qu'ils puissent réparer manuellement cette valve.
Imaginez, vous êtes au travail, au centre spatial Kennedy. Les équipes s'apprêtent à lancer la fusée la plus puissante du monde. Et là, votre patron vous appelle. Il y a un problème de fuite sur une vanne. Il vous demande alors de prendre votre matériel et d'aller sur place resserrer des boulons. Littéralement, avec une grosse clé à molette à côté d'un engin, alors rempli de 900 tonnes de carburant très explosif. Félicitations, vous travaillez pour le Red Crew, l'équipe rouge de la NASA. Et c'est ce que Billy Cairn, Chad Garrett et Trent Annis ont fait. Ils ont débarqué en pick-up sur le pas de tir, ils ont pris l'escalier de la tour de lancement, se sont rendus vers la vanne récalcitrante qui fuit de l'hydrogène liquide et ont réparé. Pour l'anecdote, le Red Crew était également intervenu lors de la mission Apollo 11, celle du premier alunissage, alors que Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se trouvaient dans l'ascenseur qui les menait en haut de Saturne 5. 53 ans plus tard, en salle de contrôle, une fois la fuite réparée et après avoir résolu quelques derniers problèmes, Charlie Blackwell Thompson prend la parole.
This is the launch director performing the final poll for launch. Verify no constraints and go for launch.
La directrice de vol sonde les responsables des différents systèmes, météo, lanceur, communication. Chacun doit dire s'il est go, s'il est prêt pour le lancement.
Weather is go for launch. And mission manager.
You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1.
Bien reçu, merci. Au nom de tous les hommes et de toutes les femmes de notre grande nation qui ont travaillé pour en arriver là, pour rendre cette journée possible, et pour la génération Artemis, ce qui va suivre est pour vous, je vous donne le go pour reprendre le compte à rebours et lancer Artemis 1.
Cette fois, c'est la bonne. Le compte à rebours reprend. Dans quelques instants, la nouvelle fusée lunaire de la NASA, première pierre du retour des hommes vers la Lune, va décoller. Quatre moteurs RS-25 s'allument, suivis quelques instants plus tard des boosters à poudre avec le crépitement caractéristique. À 5 km de là, il faut quelques secondes pour que l'onde de choc nous parvienne. Les basses font trembler nos vêtements et nous chatouillent le ventre. Il fait évidemment jour en pleine nuit alors que SLS s'élève dans le ciel. Doucement d'abord, on sent qu'elle est lourde et qu'il faut de la puissance pour la mettre en mouvement. Puis elle file vers l'espace, de plus en plus vite, jusqu'à ne plus être qu'un point lumineux dans le ciel. Au sol, les applaudissements, le soulagement. Enfin, Artemis est lancée. Tout le monde va féliciter les héros du jour, le Red Crew. Trent Annis, un peu timide face à la presse, ne réalise pas encore ce qu'il a fait.
On était assez confiants, on s'était entraîné pour ça et on s'en est pas mal tiré. J'y crois toujours pas, ça n'a pas de sens, c'est fou. On était très concentrés là-haut, on s'assurait de ce qui se passait autour de nous. Parce que la fusée, elle est vivante, vous savez, elle craque, il y a des bruits de dégazage, c'est assez effrayant en fait. Quand j'étais sur la plateforme, je sentais mon cœur battre, mais on était là. Dès qu'on a commencé à monter, on était prêts à assurer.
Et de fait, tout le monde a assuré pour ce lancement. On a appris plus tard que la fusée avait fait un décollage parfait, 0,3% dans la marge d'erreur. L'enjeu était tel, 2 milliards de dollars pour cette mission sur laquelle repose l'ensemble du programme Artemis, qu'on ne voit que des sourires au centre spatial. Et Bill Nelson, le chef de la NASA, est un directeur heureux.
Je vous le dis, on n'avait jamais vu un tel panache de flammes. Il y en avait quelques-uns avec moi qui auraient aimé être à bord de cette fusée. Et je dois vous le dire, ce soir, c'était 20 sur 20.
Mais le décollage, aussi parfait soit-il, n'était que la première partie de la mission. C'est désormais à la capsule Orion de prendre le relais. Elle est en route pour la Lune, doit se mettre en orbite autour et revenir amerrir sur Terre le 11 décembre. Le tout automatiquement. Encore une fois, c'est un vol d'essai. Il n'y a que des mannequins à l'intérieur, bardés de capteurs. Nous avons donc rappelé Howard Yu, le responsable d'Orion, il y a quelques jours pour faire le point. Il suit toute la mission, non pas depuis le centre spatial Kennedy, c'est le centre de contrôle de Houston qui a a pris le relais.
Nous sommes plus que satisfaits. C'est une mission exceptionnelle. Nous avons rempli beaucoup de nos objectifs. On voit comment se comportent nos systèmes et tout va bien. On reçoit des données en temps réel, mais on en a également qui sont enregistrées à bord et on est impatient de les récupérer au retour. Mais vous savez, c'est notre premier vol et on a quelques bizarreries. Problème serait un grand mot, mais on apprend des choses, on apprend sur le chemin. Par exemple, on regarde en particulier le système d'énergie. Il s'allume parfois tout seul et on essaye de comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas un problème puisque c'est intermittent et qu'on a de la redondance. Mais de manière générale, il n'y a rien d'autre. Sinon, dans l'espace lointain, l'environnement est hostile. On prend des radiations, on en a reçu quelques-unes, mais on a pu y répondre avec l'ordinateur de contrôle de vol. Mais je le redis, la mission est exceptionnelle.
Pour le public également, Orion est bardé de caméras et d'appareils photo et la NASA n'hésite pas à les partager massivement. Nous avons eu un survol de la Lune à quelques dizaines de kilomètres de sa surface, des levées de terre, des panoramas somptueux que des astronautes enfin pourront revoir dès la prochaine mission Artemis 2 prévue en 2024. Plus de 50 ans après, c'est en train d'arriver, l'homme retourne vers la Lune et cette fois ce sera différent, nous promettons. L'astronaute de la NASA, Stan Love, en tout cas, il y croit.
À chaque fois que je parle d'Artemis en public, on sent de l'impatience. Ça fait bien trop longtemps depuis notre dernier voyage vers la Lune. On a montré qu'on pouvait le faire, puis on a arrêté pendant 50 ans. Pendant la guerre froide, les États-Unis craignaient, et on n'entend pas souvent ces mots ensemble, les États-Unis craignaient leur disparition à cause de l'URSS. La course à la Lune était une course pour la survie des États-Unis. Mais dès que le drapeau a été planté, la volonté a disparu. On a eu quelques autres alunissages dans la foulée, l'envie, les financements ont disparu. Je pense que c'est ce qui explique ce hiatus aussi long. Mais là, la fusée est partie, on retrouve l'envie parce qu'on a un but partagé, l'exploration et la science plutôt que la peur et la politique. Ce sont de meilleures raisons, mais bon, on aura toujours à planter des drapeaux et dire des choses importantes depuis la surface. Mais dès que les systèmes, les combinaisons seront prêts, on collectera des rochers sur la Lune et on apprendra plus sur notre planète et le système solaire. Et en tant que scientifique et membre de l'équipe, je suis impatient de voir ça.
On retourne sur la Lune, c'est juste cool.
Ce qui est frappant quand on discute avec les responsables du programme, les équipes, les milliers d'hommes et de femmes qui travaillent sur le projet, c'est ce sentiment de marcher dans les pas des équipes d'Apollo, de la navette spatiale, sur les épaules des géants, disait le documentaire sur Apollo 17. Doug Bradley, l'homme des moteurs du SLS, l'explique bien, il reprend le flambeau.
Il y a un vieux film. Apollo 13, c'est Tom Hanks, la star. À la fin du film, il parle de la fin du programme Apollo et il dit « Quand est-ce que nous retournerons sur la Lune ? Et ce sera qui ?» Et c'est nous. Avant le lancement, je suis allé voir la fusée sur le pas de tir. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'y suis allé et j'ai pris quelques photos. C'est la meilleure chose qui soit.
Il reste encore plein d'obstacles à surmonter pour qu'Artemis soit le programme Apollo d'une nouvelle génération. Il y aura plusieurs missions. Artemis 2 en 2024 pour faire un tour de Lune avec des astronautes. Artemis 3 en 2025, le temps attendu à l'unissage. Et pour la suite, la NASA et ses partenaires ne comptent pas s'arrêter là cette fois avec le but, à terme, avoir une présence permanente humaine autour de notre satellite. Il y a 50 ans, Jim Cernan, le dernier homme sur la Lune, disait ces mots au moment de partir.
Houston, avant que nous ne rentrions, la chose la plus importante à laquelle on peut penser, c'est ce qu'a ouvert Apollo pour nous. Et nous, c'est le monde entier. C'est un défi pour le futur. La porte est entrouverte. Mais la promesse du futur repose désormais sur les jeunes, pas qu'aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ils apprennent à vivre et à travailler ensemble. Le défi surmonté par l'Amérique aujourd'hui a forgé le destin de l'homme de demain. Alors que nous quittons la Lune, nous partons comme nous sommes arrivés. Et comme si Dieu le veut, nous reviendrons, en paix et avec de l'espoir pour l'humanité. Bonne chance à Apollo 17.
Godspeed to crew of Apollo 17. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes.
Artemis sur la Lune pour y rester. Un grand reportage de Simon Rosé, réalisation Pauline Leduc.